On est rendu dans la troisième leçon dans le sujet de 40 ans de la vie d'une église. Et comme vous le savez déjà, parce que vous avez assisté, c'est qu'on parle de l'église d'Éphèse. Mais aussi, on parle de l'église Emmanuel, parce qu'on arrive à notre 40e anniversaire. On a essayé de sortir une bonne comparaison de c'est quoi l'Église d'Éphèse, mais aussi de c'est quoi l'Église Emmanuel. Il y a des choses qui sont très semblables, il y a des choses qui sont différentes, mais il y a des choses quand même, je pourrais dire, des thèmes qu'on doit suivre. Un exemple, c'est que c'est quoi l'Église? Nous, on pense à l'Église, les bons Québécois, on sait qu'une Église, c'est un édifice massif installé depuis des centaines d'années, sur le coin de rue, dans un village, dans une ville, dans un centre de ville. C'est quelque chose d'important. Mais ça, c'est le bâtiment. Mark Twain avait dit que Montréal, c'est la première place qu'il a visitée, où ce qu'il disait qu'il pouvait se mettre sur les marches d'une église, prendre une roche, puis lancer puis briser une fenêtre dans la prochaine église, tellement qu'il y en avait sur tous les coins de rue. Nous, on est religieux comme nation. Ça a tout le temps été notre histoire. Évidemment, fausse religion, c'est une fausse religion. C'est quoi une vraie église? Charles. Amen. Quand la doctrine est prêchée, Pierre.
La discipline est exercée.
Et la discipline est exercée. On suit et on s'obéit. Okay? C'est important, la parole de Dieu, comment est-ce que ça nous enroule. Mais pour faire tout ça, ça prend du monde.
Exactement.
Une église, c'est nous. C'est les êtres humains. C'est des hommes et des femmes qui font partie d'une église parce que ils ont reçu la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Dieu nous a envoyé son Fils payer nos péchés. Le pardon est disponible parce que Dieu voulait nous choisir, nous mettre ensemble. Et justement, c'est une des bénédictions parce qu'ensemble, on peut servir ensemble, on peut s'encourager. On parle de toutes les choses, des problèmes qu'on a à gauche et à droite, mais quand on est plus qu'un, quand on est deux, trois, quatre qui prient ensemble, il me semble que c'est bien moins douloureux que d'être tout seul dans le trou. Hein? Et alors, l'idée de servir, de s'encourager, de partager cette bonne nouvelle. Et c'est ça qu'on a vu initialement lorsqu'on a regardé l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse a commencé très simplement. Et c'est pas par accident. C'est une œuvre du Saint-Esprit qui a commencé il y a longtemps avant que l'an 50, quand l'église a commencé. Ça a commencé avec, on a parlé de ça, la conversion de Paul. Son nom était Saul, et quand il a connu le Seigneur, on a changé son nom pour Paul. Et littéralement, on a vu qu'il a été formé avec le but de devenir évangéliste, d'être apôtre, d'aller amener le message, l'enseignement, la doctrine, de ville en ville. Et on a vu comment est-ce que lui avait été en transition. Et on ramène cette expression encore aujourd'hui parce que ça va apparaître. Le concept de transition, c'est que l'apôtre Paul était un bon petit garçon juif. Il était pris dans le système judaïque. Il faisait tout. Et même la semaine passée, on a parlé justement du fait qu'il voulait accomplir un vœu. Un vœu que les chrétiens ne comprennent à peine, mais les juifs, ils savent très bien. C'était très normal pour eux autres d'aller faire un vœu, puis d'aller ensuite brûler les cheveux qu'ils ont coupés au temple et faire des sacrifices spécifiques pour accomplir un vœu qu'ils ont fait au Seigneur. L'apôtre Paul était encore pris avec cet judaïsme. Et on a vu ça dans cette méthode d'évangélisation. Souvent, on va avoir une idée, une formule, comment on va travailler à faire l'évangélisation. Moi, quand j'étais jeune, on nous a enseigné les quatre lois spirituelles. Et quand tu te présentes, tu déposes ça, un, deux, trois, quatre, devant la personne à qui vous voulez témoigner. C'est un système. Tout le monde a des systèmes. J'ai reçu un cadeau, un livre sur les missions, qui est à peu près gros comme ça. C'était énorme. Et c'est une recette. Comment on va partir en mission? Comment on s'organise? Comment on finance les missionnaires? Enfin, c'est plein de bonnes choses. Mais c'est quand même une recette. L'apôtre Paul avait une recette. Vous vous souvenez très bien, c'est quoi la première étape? Quand on va dans une ville, qu'est-ce qu'on fait?
On va à la synagogue.
On va à la synagogue parce que c'est là où sont quoi, les Écritures. C'est voir ce qu'ont les gens qui ont déjà lu, qui sont déjà familiers. Et si on veut argumenter le fait que Jésus est le Messie promis dans l'Ancien Testament, ça aide si les gens connaissent un peu déjà l'Ancien Testament. Et on va voir aujourd'hui et dans une semaine qui s'en vient comment aussi c'est important parce que si on veut former des gens dans une église, avec le but de partir et partir d'autres églises dans d'autres villes, il va falloir qu'on laisse des gens en arrière qui sont capables de quand même continuer la croissance de l'église. Et ça veut dire qu'on a besoin des gens qui connaissent l'Ancien Testament, qui commencent à connaître les enseignements de l'apôtre Paul. Et on va voir l'habité, la transition d'être une personne qui ne connaisse pas le Seigneur à un chrétien fidèle. Il y a tout un cheminement. Le Seigneur est venu nous chercher un moment précis. Mais après ça, est venu quoi? La période de sanctification. Quand est-ce que ça termine, la période de sanctification? Juste en question quiz comme ça, là.
À notre décès.
À notre décès, ouais. Moi, je dirais, quand on est face au Seigneur, puis il nous a complètement transformés. Entre-temps, on se bat avec un paquet de choses. Parce que nous sommes en transition, comme l'apôtre Paul. Et comme l'Église d'Éphèse. Alors, on va voir cet élément essentiel. On a vu aussi des choses très importantes. On a vu comment est-ce que Paul n'était pas seul. Et on a terminé avec ça la semaine passée. Il était avec Aquilas et Priscille. Il arrive à Éphèse, mais lui veut accomplir son vœu. Il veut partir. Et il veut descendre à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser ces deux-là en arrière. Premier voyage, deuxième voyage. Et il va les laisser en Éphèse en quittant Corinthe et il va partir, lui, pour Jérusalem. Mais eux autres, ils restent. Et vous savez très bien qu'est-ce qu'ils vont faire, eux autres. Eux autres aussi, ils vont aller à la synagogue, n'est-ce pas? Eux autres aussi, ils vont aller où est-ce que la parole de Dieu est disponible et enseignée. Ils vont argumenter avec les gens. Ils sont probablement pas aussi habiles que l'apôtre Paul, mais j'ai l'impression qu'ils ont à cœur vraiment l'enseignement. Et je dis ça parce que quand Apollos arrive, un autre monsieur qui arrive d'Alexandrie, il commence à lui parler des choses qui manquent dans son enseignement. Apollos est une personne habile, une personne instruite, une personne qui comprend ça, pour découvrir qu'en fin de compte, il connaît très bien Jean-Baptiste, mais il ne connaît pas Jésus. Et qu'est-ce qui arrive? Priscille, Aquilas, le prend de côté, hey, viens chez nous, on va vous expliquer des choses, puis on va rendre ce que tu connais beaucoup plus complet. Et il faut le dire, si moi je connaissais Jean-Baptiste, c'est bien, parce que Jean-Baptiste parle de repentance. La repentance est essentielle si on veut rencontrer le Seigneur. On a besoin de cette repentance, cette préparation. Mais avec ça vient quoi? La foi dans notre Seigneur Jésus, dans le sacrifice qu'il a fait sur la croix. Alors, il faut être instruit dans cet évangile, cette bonne nouvelle qui arrive. Alors, on voit ces deux personnes. Alors, juste pour vous mentionner, on a laissé Apollos la semaine passée. Il a quitté Éphèse pour aller à Corinthe. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens que quoi? Paul a semé, mais Apollos a... Il a arrosé. L'idée, c'est qu'on est plus qu'un travailleur et clairement, Apollos avait un ministère auprès des Corinthiens. C'est pas terminé. Apollos, on va revenir avec lui.
Oui.
C'est ça? C'est tout ce qu'on a laissé.
Il y en a beaucoup plus d'autres qui travaillent.
Ben, justement, moi, je voulais juste vous donner l'avant-goût, c'est que l'apôtre Paul avait d'autres hommes. On va parler justement de ça. Et l'apôtre Paul va arriver à un point en transition où il va réaliser que c'est bien fun d'avoir Timothée, c'est bien fun d'avoir Silas, c'est bien fun d'avoir Luc avec lui, avoir tous ces hommes qui viennent, qui font le ministère avec lui. Et c'est vraiment une équipe missionnaire, c'est fantastique. Mais il a besoin de plus que ça. Et c'est On le voit à travers son deuxième voyage, on le voit à travers son troisième voyage aussi. Et c'est bien cité dans les Actes des Apôtres que l'apôtre Paul voulait retourner dans les villes où il avait déjà passé. Et une des choses que Actes nous dit, c'est qu'il est retourné avec le but de faire choisir, hein, de choisir des anciens dans les églises, en sachant qu'ils ont besoin de direction, qui lui n'est pas toujours là. Et il réalise très bien, ils ont besoin eux-mêmes de l'encouragement d'une structure, d'une organisation simple, mais efficace pour l'enseignement de la parole et pour l'évangélisation. Ce que je voulais faire le commentaire par rapport à tous ces gens-là, incluant Apollos, incluant Priscille, Aquilas, tous les gens avec qui ils ont un rôle à jouer. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes en transition. Et j'ai mentionné dans les messages précédents que Dieu nous prend comme des pierres dures, pointues, raides. Il nous met dans une barille puis il nous brasse. Pourquoi? Pour nous arrondir, nous rendre lisses, rendre belles. Et quand on pense à les enfants de Dieu, là, moi je pense à souvent les gens qui sont venus à l'Église et qui avaient certaines pensées, certaines logiques, certaines formations. Et quand ils se frottent contre les autres, et quand ils se débattent, et quand les discussions, et quand les études se font ensemble, on se réveille et on réalise que oui, nous sommes en transition ensemble. Et c'est important, justement, le rôle qu'on a à travailler ensemble pour ce fin-là. Et on va voir ça cette semaine dans Actes chapitre 19, où est-ce qu'on va aller. Juste pour reparler un peu plus, le troisième voyage de Paul commence où est-ce qu'il quitte Antioche la troisième fois. Et cette fois-ci, là, il s'en va à Tarse, puis ensuite, il fait le tour de la galaxie. Les Écritures ne nous disent pas où il est allé exact, mais ils nous ont donné le chemin approximatif. Ceci va avoir un énorme impact sur le développement de l'apôtre Paul. Il va changer son fusil d'épaule. Son système missionnaire va s'évoluer. Et vous savez très bien, comme moi, que dans l'ancien monde, dans le monde d'aujourd'hui, oui, il y en a des Juifs. Mais ils sont une minorité, n'est-ce pas? Regardez notre Église et regardez les différentes nationalités qui sont venues ici, qui sont installées, qui sont confortables ici. Et qu'on aime le Seigneur et on aime être ensemble, puis on aime faire la mission ensemble. Devine quoi, il n'y a pas de Juifs. Et Paul va réaliser quelque chose de très important pendant son troisième voyage, c'est que c'est bien fun d'aller après les frères et les sœurs dans la foi, dans la foi juive. Mais la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres qu'il faut aller rejoindre. Et là, ça veut dire qu'on va changer de méthode. Le synagogue, ça marche très bien, mais il y a une autre chose qu'il faut faire. Il faut aller chercher les païens qui, eux autres, vont éviter le synagogue. Eux autres, ils vont éviter les Juifs. Et là, c'est temps d'aller les chercher pour le Seigneur. Alors, on voit ça dans le troisième voyage. Et dans le troisième voyage, il traverse la Galatie et il arrive à Éphèse. Drôle, hein, parce qu'il avait laissé Éphèse avec le commentaire que « Si ça ne veut, je vais revenir. » Bien, il est revenu. Puis, il n'est pas revenu en petite visite, là. On va voir que Paul va s'investir dans l'église d'Éphèse, parce que les besoins sont énormes. Et dans le chapitre 19, on a plein d'exemples des besoins où ce qu'ils avaient, justement, Paul avait de quoi à faire. Dans Actes 19, il nous dit que pendant Apollos était à Corinthe, okay, Paul, après avoir parcouru les autres provinces d'Asie, il arrivait à Éphèse. Comme je dis, on ne nous dit pas où, quelle ville, mais on sait que c'est probablement au nord de Galatie. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà fait deux voyages dans le sud de Galatie. Là, c'est temps d'aller au nord. Et il arrive à Éphèse. Faut comprendre qu'il est parti, il est allé à Jérusalem. Il remplit ce qu'on veut, il est retourné à Antioche, et là, il a commencé son randonnée dans le nord. Ça fait des mois qu'il est parti. On n'a pas de date exacte, mais on sait que ça fait pas mal de longtemps. Il y a des choses qui se sont arrivées à Éphèse pendant qu'il est parti. Ça n'a pas resté à rien faire. Alors, quand il revient, il constate des besoins, il constate la croissance, et il retourne. So, verset 1, la deuxième partie. « Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, quand avez-vous cru? » Ils répondirent, « Nous n'avons pas de même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé? » Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc, Paul arrive à Éphèse, il rencontre des gens qui s'identifient comme disciples. Et là, il y a une très bonne question à se poser. Quelle sorte de disciple que c'est, ça? C'est quoi un disciple? Très simple, un disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître. Mais quel maître? Le système judaïque était basé sur les rabbins qui enseignaient. Et si les gens étaient très impressionnés avec un rabbin, ils vont faire quoi? Ils vont le suivre. Il y en a qui investissent tout. Eux autres, ils se payaient une formation en suivant le rabbin partout où il allait et en l'écoutant et en apprenant. Et c'est une façon de suivre. On les appelait des disciples. Mais les disciples du maître, c'est qui le maître? C'est le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, il comprend très bien. Sur le chemin de Damas, il a rencontré le maître. Et lui, c'est un disciple, il comprend dans sa tête, un disciple, c'est celui qui suit le Seigneur. Alors, il pose la question, et la question est fascinante. Il pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Non, l'idée, c'est que quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Charles?
Par rapport à la nouvelle naissance.
La nouvelle naissance, le repentance. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Tout le monde achète ça?
Amen.
Amen, OK. C'est ça que les Écritures nous enseignent. On peut passer plein de temps à regarder les différents passages. Quand l'Esprit Saint vient, c'est quand on accepte le Seigneur. Et on accepte le Seigneur quand on tourne de nos péchés et quand on se donne à lui. Et c'est simple. Cependant, ces gars-là, ils disent disciples, mais en réalité, on pose la question, enfin, disciples de qui? Et là, ils ont dit, bien, Paul, il pose la question, de qui est-ce que vous êtes baptisés? Bien, de Jean. Les lumières sont allumées. All right. Ceux qui suivaient Jean-Baptiste, est-ce qu'ils étaient nécessairement les suiveurs de Jésus?
Non.
Pas du tout. On a vu ça chez Apollos. Alors, on revoit le même scénario qui se reproduit. Ils ont besoin de plus d'informations pour être capables de comprendre que Jean-Baptiste annonçait l'arrivée du Messie. Il annonçait l'arrivée de Jésus-Christ. Et il faut comprendre c'est qui Jésus-Christ. C'est plus important. Jean avait bien dit, moi, je ne suis pas digne de quoi? De tâcher ses sandales. Un travail le plus minial, le plus petit. Hein? Mais Jean, il ne se croyait pas digne de ça. C'est pas lui qu'on doit suivre, c'est notre Seigneur Jésus. Et là, on réalise très rapidement que ces hommes-là avaient commencé une transition vers la bonne chose, le Seigneur, mais ils ne se sont pas rendus. Et l'apôtre Paul, il n'a pas perdu un instant, il a pris le temps de leur montrer, et les autres, ils sont fait baptiser, mais baptiser, c'est ici, hein, comme enfants de Dieu. Et ça, il faut comprendre la différence. Il y a beaucoup de personnes qui croient dans le baptême. Moi, j'ai des amis qui sont des pédobaptistes, c'est-à-dire qu'on baptise les enfants. L'enfant n'est pas capable d'accepter le Seigneur. Ils font parce que c'est une tradition dans leur église, mais la réalité, et ils vont l'avouer. C'est pas ça qui sauve. Mais la réalité, c'est que dans l'église catholique, combien ici, anciennement les catholiques, est-ce que vous êtes fait baptiser? Ouais, ça a fait quelque chose, une différence dans votre vie? Pas tant que ça, hein?
Je me rappelle pas.
Hein?
Je me rappelle pas.
Yeah.
D'ailleurs, un meilleur argument pour le baptême des croyants, c'est que quand on est baptisé par Jean le Baptiste, on se repent de nos péchés.
Amen.
D'accord. Je ne vois pas comment le baptême du Seigneur Jésus exclurait une repentance de première main.
Yeah.
Ça n'a aucun sens.
Non. Et d'ailleurs, tu vas voir le baptême du Seigneur Jésus, c'est un baptême de repentance, ou plus que ça. Et beaucoup plus, oui. C'est complet. Ouais. Et on tourne vers Jésus, on le suit, et on s'identifie avec quoi? Sa mort, et enseveli, et là, tout à coup, le baptême prend un autre sens. Et d'ailleurs, c'est justement un très bon point. Alors, quand on voit ceci, on voit très rapidement qu'ils avaient besoin de se faire éclaircir dans l'enseignement, dans la doctrine. Et ça, c'est une des caractéristiques qu'on voit souvent dans les églises, surtout les petits qui se font. Il y a plein d'idées qui rentrent, plein de différentes pensées, plein d'expériences. Et on ne veut pas dire que c'est dans le mal, mais est-ce que c'est ce que les Écritures disent? Moi, j'aime encore l'expression de l'Église qui s'est formée à Berry. Pourquoi? Parce que les autres, ils ouvrent les Écritures et vérifient ce que Paul disait. C'est-tu vrai, ça?
Chaque jour.
Oui, chaque jour, on écoute, on recherche, et on fait une idée basée sur quoi? Sur les Écritures. Et quand on a une bonne enseignante, ça a fait la différence.
Quand les églises actuellement sont petites, ils laissent petites, ils se laissent amener par la parole, c'est bien. Mais nous devons être, dans une sorte, même si on est des églises indépendantes, on doit être relevable avec des autres églises pour qu'on puisse être confronté avec des autres compréhensions et on puisse rester dans la sainte doctrine. Mais si on s'en va naviguer la mer toute seule, on peut aller par les bancs des doctrines ici et là.
À gauche, bien là. Et ça, c'est un point aussi. On réalise l'importance, l'interdépendance qu'on a pour nous garder sur le chemin et nous garder clair sur la parole de Dieu. Alors, là, on a cette situation où ils ont eu le Saint-Esprit et ils ont le don des langues. Moi, j'étais un adolescent, j'allais à l'université en centre-ville, je prenais le métro et je lisais ma Bible un matin et un homme qui s'est assis à côté de moi, il dit, tu lis la Bible, oui. Est-ce que tu connais Jésus? Oui, je connais Jésus. Est-ce que tu as eu la deuxième bénédiction? Il y a une deuxième bénédiction? Puis là, il essaie d'expliquer comment est-ce que j'avais besoin du Saint-Esprit pour que je puisse parler en langue et tout ça. Et moi, j'ai dit, ma compréhension en lisant les Écritures, c'est un, que ça existe, oui, mais ça existe pour faire quoi? Et c'est pas une bénédiction, c'est un témoignage. Ici, on a des hommes qui se disent disciples, qui ne le sont pas, qui sont baptisés, et qu'est-ce qu'on voit? On voit le Saint-Esprit qui descend sur eux autres. Preuve du fait de l'enseignement de l'apôtre Paul est vrai, l'autorité qu'il a, et on voit ça à des places spécifiques dans les Écritures. Quand est-ce qu'on a vu le don des langues dans Actes des Apôtres?
Chapitre
2. Amen. C'est une première place. Et là, on a un paquet de Juifs qui sont là en train de célébrer une fête, qui entendent prêcher l'apôtre Pierre, et qui devinent quoi? Ils veulent croire, ils veulent accepter, ils veulent se faire baptiser, ils devinent quoi? Ils parlent en langue. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de partout. C'est des gens qui viennent de partout et ils commencent à témoigner dans les différentes langues. Et c'est normal qu'ils ont besoin d'avoir une preuve de la véracité de ce que Pierre enseignait. Deuxième place, quand ils sont allés en Samarie, qu'est-ce qui arrive? Les Samaritains entendent l'Évangile. Et c'est Philippe qui est allé présenter l'Évangile. Et qu'est-ce qui arrive? Ils parlent en langue. Et on voit cette preuve que les Samaritains aussi peuvent recevoir le Saint-Esprit. Les Samaritains sont des enfants de Dieu. Ils peuvent être des disciples. Pierre s'en va chez Corneille, qu'est-ce qui arrive? Il entend l'Évangile. Un Romain avec une maison pleine d'esclaves, plein de serviteurs. Et qu'est-ce qui arrive? Il entend l'Évangile. Qu'est-ce qui arrive? Il parle en langue. C'est une preuve de l'authenticité, de l'autorité de l'enseignement. J'ai-tu besoin de ça aujourd'hui?
Non.
Pas vraiment, hein? Parce que si toi, tu me parles de quelque chose et je veux vérifier l'autorité, qu'est-ce que je fais? J'ouvre les Écritures puis je vérifie ce que tu dis. Ah oui! Et moi, j'ai la parole de Dieu, j'ai le Nouveau Testament, j'ai plein d'enseignements qui m'aident à valider l'autorité. Moi, j'ai pas besoin de ce signe. Et on sait qu'à travers les Actes des Apôtres, ce signe va disparaître. Mais ici, c'est une place où on en avait besoin pour démontrer la différence entre le baptême de Jean, les disciples de Jean, et le baptême de notre Seigneur, les disciples du Seigneur. Alors, c'est une évidence, une preuve très importante. Et ça, c'est je trouve ça triste que les gens vont prendre les actes des apôtres comme étant une fondation, une racine doctrinale. La réalité, c'est que l'acte des apôtres, c'est un narratif qui explique qu'est-ce qui est arrivé, comment la transition s'est faite de judaïsme à la christianisme. Et littéralement, on a besoin justement de ce narratif, mais je ne suis pas sûr que je bâtirais ma vie là-dessus. Je comprends que c'est arrivé, je comprends très bien qu'il y avait des traditions et des rituels, mais moi, je ne m'en vais pas couper les peu de cheveux que j'ai pour faire un vœu. Puis 30 jours plus tard, me rendre dans Jérusalem pour découvrir qu'il n'y a pas de temple où est-ce que je peux offrir des sacrifices. La transition est là, dans l'acte. Et on n'a pas besoin, nous, de bâtir sur cette transition et exiger que cette transition continue aujourd'hui. Il y a une autre transition qui se fait.
Hein? Mais c'est plus tranquillement, nous dire comment nous comporter.
C'est ça. Et d'ailleurs, combien de fois est-ce qu'on retourne pour justement chercher cette formation-là? Alors ça, c'était très important à constater cela. Verset 8 de chapitre 19. Paul, comme bien parmi nous, ne laisse pas de côté ses vieilles habitudes. Il y en a qui sont des habitudes qu'on devrait se débarrasser, mais il y en a des bonnes quand même. Mais les bonnes arrivent dans verset 8. Ensuite, Paul, quoi? Il rentre dans la
synagogue.
Eh oui! Ils ont des copies de l'Ancien Testament. Ils sont quand même là. C'est des frères et des sœurs de la nation de Paul. Il a à cœur ces gens-là. Il va aller là-dedans, puis il va les chercher pareil. Il a aussi le concept que si les Juifs me rejettent, ça me donne une licence pour aller annoncer l'Évangile aux païens. Tant pis pour eux. Mais si je vais chez les païens, ça se peut que les Juifs vont dire « Je veux rien savoir parce que tu passes ton temps chez les païens. » Alors, c'est très important de constater l'apôtre Paul, dans cette transition, il ne délaisse pas vraiment les choses qui marchent bien. Il a parlé librement combien? Pendant trois mois. Et nous, on a lu déjà d'autres passages dans Actes, n'est-ce pas? Combien de temps est-ce que ça prenait pour qu'il se faisait mettre dehors? Des fois, ça ne se prenait pas longtemps. Trois semaines. Ça prend trois mois. Les gens ici, à Éphèse, les Juifs sont plus patients, plus prêts à l'écouter. Mais jusqu'à un certain moment où ce qui arrive, quoi, ils discouraient les choses qui concernaient le royaume de Dieu. Et on a dit le royaume de Dieu, c'est l'évangile de Jésus, annoncé dans l'Ancien Testament, efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Verset 9, « Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, ils se retiraient d'eux, séparaient les disciples et enseignaient chaque jour dans une école d'un nommé Tyrannus. Cela durait deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. » Luc, il donne un sommaire, c'est lui qui a écrit Actes, et il donne un sommaire de deux ans d'activité dans ce paragraphe-là. Paul a commencé dans la synagogue, ça a bien été pendant trois mois, mais à un moment donné, les cœurs endurcis. Est-ce que vous connaissez ça, les cœurs endurcis?
Mm-hmm.
Ouais. On connaît ça, hein?
Malheureusement. Et je peux parler de mon propre cœur. Garde ton Jésus pour toi-même. Je l'ai dit poliment en 2010, garde ton Jésus pour toi-même.
T'es pas le seul. Moi, je l'ai reçu, ce message-là, à maintes et maintes reprises. Et moi, malheureusement, ça m'a fait de la peine. C'était des amis, c'était des connaissances de proches, c'était des collègues de travail. C'était même des membres de famille qui nous envoient promener avec les bonnes nouvelles. Et ça arrive, l'endurcissement des cœurs. Et puis, qu'est-ce qui arrive après ça? Comment c'est décrit? Je trouve ça fascinant. Il se retire d'eux, sépare les disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en vais. Pierre, Charles, Richard, viens avec moi. Il les séparait d'eux autres. Il dit, on va aller ailleurs, nous. On ne reste pas ici avec des cœurs endurcis. On va aller quelque part où on peut parler librement de ce que Dieu a fait. Et il choisit une place. Non? Moi, je pensais que Tyrannus était un croyant. Le plus que je lis là-dessus, je constate qu'on n'est pas tous de la même opinion. Tyrannus était un professeur qui avait une école. Et dans le système grec, c'est que tu allais dans l'école d'un tel. Lui avait une école et évidemment, il fallait qu'on paye pour nos études. Alors, on était étudiants, on donnait l'argent au professeur, on se satisfaisait d'un bain, puis on prenait des notes. Puis on apprenait les mathématiques, puis on apprenait la philosophie, on apprenait les langues. On apprenait ça à l'école. Et Tyrannus s'était installé à une école. Les traditions et les manuscrits qu'on a du premier siècle, c'est fascinant l'information qu'on ressort. Hein. Dans les manuscrits, on parle justement de cette école de Tyrannus qui opérait dans les heures normales des fêtes. Des heures normales. Est-ce qu'on a des heures d'affaires normales? Je dis oui. 9 à 5. Amen. Moi, j'aime bien ça. 9 à 5. Ça passe bien. Malheureusement, Éphèse, c'était très chaud. Ils n'avaient pas l'air climatisé comme nous, on a. Alors, l'école était littéralement de 8 heures le matin à 11 heures, hein, presque midi, et ça reprenait à 4 heures l'après-midi. Est-ce qu'il y a des places dans le monde où est-ce que ça se fait, ça?
Oui.
Partout, hein? Ah, oh, ouais. L'apôtre Paul, ça a l'air d'après les manuscrits, avait négocié avec Tyrannus une location. Je peux-tu louer la salle pendant le temps que vous n'êtes pas là? De 11 à 4, à 5 heures chaque jour, l'apôtre Paul enseignait en chaleur, il enseignait à ses étudiants la parole de Dieu. Et quand je dis ses étudiants, je veux juste, on va aller plus en profondeur dans les semaines à venir, OK? Mais quand on a ici une école en Éphèse, opérée par l'apôtre Paul, comme je t'ai dit, il a constaté très rapidement que me promener avec Timothée, me promener avec Silas, avec Luc, avec tous les autres gars qu'on va nommer souvent dans les Écritures, comme compagnons de ministère, ça forme les gars bien. Il y a vraiment un succès, là. Mais l'échelle est quand même réduite. Alors, on est sur la route, on est 2-3, on part. Mais dans une salle de classe, on est 10, 15, 20. On a souvent des problèmes. On a une école qu'on a commencé en Shawinigan, et puis Mathieu Caron m'a dit ce printemps, il me disait qu'on a un problème. Il dit que l'église de Shawinigan n'est pas assez grande pour contenir le nombre d'étudiants qui viennent. Et on entend ça. Puis c'est ça des églises frères, les églises mennonites. Ils se ramassent tout. Et là, on se pose la question, bien, qu'est-ce qu'on fait? Mathieu, évidemment, c'est un gars qui rêve. Hein? On l'a déjà entendu prêcher ici. Hein? Mais lui, il veut bâtir. Il me parlait de construction, puis de budget. Puis... Hey, c'est normal. L'apôtre Paul a ce même problème. On a des hommes qui veulent entendre l'Évangile, des hommes qui veulent s'équiper, des hommes qui vont quoi? Et on voit dans le passage ici, quoi? Hey, tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs, grecs, entendent le peuple. C'est parce que Paul n'allait pas dans chacune de ces villes, mais littéralement, l'Esprit Saint amenait des gens de toutes ces villes-là pour venir et de prendre à ses pieds à Éphèse. Et je trouve ça fascinant de voir ça. Je trouve ça vraiment impressionnant que Dieu a choisi un système comme ça. Mais Paul est en transition, là. C'est plus juste le mentorat, c'est même plus juste l'Évangile, mais c'est la formation formelle. Parmi les commentaires, la majorité de ce que j'ai lu, moi, c'est qu'on constate que dans l'Apocalypse, on a 7 églises. Les 7 églises, on croit, c'est des églises produites par l'école de Paul. Et ça, c'est fascinant. On va regarder ces églises plus en détail, parce que ça va nous aider à comprendre le rôle qu'Éphèse avait. Comme étant, on se sert de l'expression ici, pépinière. On n'aime pas ça que Benoît Boulay nous a quittés. Mais on est content parce qu'il y a une église à Alma qui profite justement de tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il s'est maîtrisé ici, mais il met en pratique là-bas. Et on a plein d'exemples de ça, des gens qui nous ont quittés, qui sont allés ailleurs depuis 40 ans. Et d'ailleurs, on sait que c'est la bonne chose à faire. Le Saint-Esprit dirige de cette façon-là. Maintenant, Paul a transitionné la méthode. Lui, sa façon d'évangéliser, c'était face à face. On comprend ça, les quatre voies spirituelles, je rencontre Jacques, je me présente, hey, je lui présente l'Évangile, je travaille avec lui. Ça, c'est comme ça que Paul travaillait. Mais la transition, c'est qu'il réalise très bien 2 Timothée 2:2, et vous le savez par cœur, sinon, vous devrez le maîtriser.
Oui, les quatre générations.
Exact. Et ce que tu as entendu de moi, première génération, en présence de beaucoup de témoins, OK? Ça, c'est Timothée et les témoins. Confilé à des hommes fidèles, troisième génération, hein? Et pour qu'ils soient capables de quoi? D'enseigner aussi à d'autres. Moi, j'ai l'impression qu'après 3 voyages missionnaires, l'apôtre Paul commence à démontrer une certaine âge. Je ne sais pas vous autres, mais il y en a quelques-uns parmi nous qui ont des cheveux blancs, ceux qui en restent. On sait qu'est-ce que c'est de devenir fatigué plus rapidement. Hein? On fait plus. Qu'est-ce qu'on faisait? Les 3 chaque été, on faisait un toit?
Oui.
Mais plus à ça, hein?
Non,
moi non plus. Moi non plus. Paul était fatigué de tout ce qu'il avait fait. Pas parce qu'il l'a pas apprécié, mais il n'a plus l'énergie. Et il réalise, hey, c'est pas à moi de faire ça, là. Je suis pas seul. J'ai des bons gars qui sont avec moi. Il y a des personnes autour que le Saint-Esprit touche. Et on veut aller les chercher, les ramener pour l'enseignement. Alors, c'est important de réaliser que Paul a changé de fusil d'épaule. Il va évangéliser maintenant avec les programmes pour se reproduire. Et après, il fait ça pendant 2 ans. Alors, 2 ans, dans notre temps, c'est pas beaucoup. 2 ans, c'est quoi? Un diplôme d'études professionnelles au cégep, ça fait à peu près ça, 2 ans? Ben, c'est pas grand-chose. Mais si on allait à chaque jour, 6 fois par semaine, peut-être 7 fois par semaine. Incroyable. Et plus loin dans Actes, on va voir que Paul va dire aux Éphésiens que j'enseignais le jour et la nuit. Mais tiens, la nuit, là, qu'est-ce qu'il faisait? De maison en maison. L'apôtre Paul, il enseignait toujours dans cette classe, mais ce n'est pas là où il arrêtait. Il allait chez les, hein, partout, chez les familles, et il s'assied avec eux autres, prendre un boucher de pain, puis en même temps, on va parler de l'Évangile, on va parler de les grandes doctrines, on va les placer devant les gens. Pendant 2 ans, une formation intense, OK? Une formation sans arrêt. Et verset 11 nous dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'il les appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qu'il avait touchés son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Wow! On parle de puissance, là. Paul avait des puissances apostoliques afin de valider le message qu'il donnait, et les gens étaient tellement impressionnés qu'ils prenaient les linges. Non. Nous, on est des gens propres, n'est-ce pas? On tousse dans le coude, OK? Et nous, on a des serviettes sanitaires pour essuyer des choses. Et on est comme ça, nous autres, notre société. Mais dans ce temps-là, c'était pas comme ça. Un mouchoir, c'était pour se moucher, OK? Travailler dans le marché, à faire des tentes, travailler dans une école, enseigner, c'était chaud. On prenait un mouchoir, puis on quoi? On s'essuyait avec. Et les gens croyaient que le sueur de Paul avait des puissances. Et ils mettaient ça sur une malade, puis la malade, il se guérissait. Wow! Tu peux-tu voir la crédibilité que ça lui donne? Mais ça cause aussi d'autres problèmes. Ça donne des signes de l'autorité de Paul, mais verset 13, quelques exorcistes juifs, ambulants. C'est quoi ça, un exorciste? Yeah. Quelqu'un qui chasse des démons, quelqu'un qui a l'habilité, quelqu'un qui a la capacité de le faire, quelqu'un qui a littéralement la profession, l'appel pour faire ça. Ça, c'est un exorciste, quelqu'un professionnel. Je dis professionnel parce qu'on paye quelqu'un pour le faire. Alors, vous pouvez voir où est-ce que je m'en vais avec ça, n'est-ce pas? Et on paye, et ça vous suit vraiment le problème. Le problème, c'est le prémisse de base. Un exorciste chasse les démons. Qui chasse les démons?
Pas moi.
OK? Pas l'Église catholique. Qui chassait les démons? Jésus. OK? Il est le seul qui le faisait. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a créés. Il les a créés comme anges. Et ils sont déchus. C'est lui qui les a renvoyés du ciel. C'est lui qui est en charge. Et ça paraît dans le passage ici. Les Juifs ambulants, c'est les gens, évidemment, qui se promènent. En anglais, on a une expression qui s'appelle « ambulance chaser ». C'est lui qui chasse les ambulances. C'est qui, d'habitude, qui chasse les ambulances? C'est un avocat qui cherche de l'argent parce qu'il sait qu'il y a une opportunité de faire une poursuite. OK? C'est un gars qui est là, pourquoi? Pour le piastre, pour l'argent.
Mais ça, c'est beaucoup aux États-Unis.
Oh, yeah! Je peux te donner des noms de quelques-uns, ok, si tu veux. Oh, yeah, ici. Oh, ouais. Oh, oui. Mais tu as raison, les États-Unis, là, tout le monde, ils sont prêts à poursuivre pour n'importe quelle raison. Hein. Mais ici, ils chassent les démons. Et il nous dit ici qu'ils essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus, que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les sept fils de Sceva. Non, pensez un peu. On a dit que c'était une entreprise. On a dit que c'était des gens qui étaient des professionnels. Ça a l'air que c'était une entreprise familiale. Alors, papa a enseigné à ses fils les trucs nécessaires pour que les autres puissent gagner un salaire en faisant l'exercice des démons. Et le problème, c'est que et on voit que les autres y arrivent, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour améliorer leur rendement. Alors, ils prennent le temps de servir le nom du Seigneur Jésus. Et il arrive et il dit, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Maintenant, qu'est-ce que le démon en question, il répond? Et je trouve ça fascinant que le démon prend le temps d'expliquer les faits. Moi, je trouve ça, pour moi, comme enfant de Dieu, encourageant. Les démons, ils savent. Ils tremblent. S'il y a quelqu'un qu'on devrait au moins faire attention, c'est le fait que les démons, c'est qui et qui. Hein? Alors, ils disent ici, l'esprit malin, verset 15, répondit, « Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » Ah, ben, tu peux voir le drame qui arrive, le temps, mais qu'est-ce qui arrive, là? On est supposé le chasser, puis c'est lui qui nous arrête. Et évidemment, qu'est-ce qu'il va faire, hein? Et verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançait sur eux. Le mot grec ici veut dire sauter avec violence. OK? C'est grave, on fonce là-dessus, là. Il saute sur eux. Il se rendit maître de tous. Il y avait deux des frères qui étaient là. Il les maltraitait, de sorte qu'ils sortaient, ils s'enfuient de cette maison, nus et blessés. Maltraité, il a ignoré, lui donner le pomme pourri. Tu peux maltraiter quelqu'un. Ici, là, maltraiter veut dire qu'il n'y a plus de linge. Ça veut dire qu'ils sont blessés, saignants. C'est grave. Le démon donne à cet homme un pouvoir additionnel, surhumain. Et ils passent par-dessus les deux et ils ne sont pas capables de se défendre. Tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est de fuir, tout nu. Hein, c'est grave. Mais ce qui est fascinant, ce qui suit, cela fut connu de tous les Juifs, de tous les Grecs qui demeurent à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Incroyable, hein? Ils pensaient prendre l'avantage de ce Jésus, de ce Paul, et à l'inverse. C'est qu'on donne la gloire, on donne l'honneur. Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est que le nom de Jésus, le Dieu de Paul, devient un sujet important dans la ville d'Éphèse. Publicité. À un tel point, verset 18, que plusieurs qui savaient, crurent, okay, venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des armes magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant le monde, et on a estimé la valeur de 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croit sa puissance en foi. Une prochaine évidence de l'influence de l'autorité de notre Seigneur Jésus, de la mission de Paul, c'est qu'on a ces gens-là qui amènent quoi? Tous leurs bouquins. tout leur rouleau, tout leur parchemin qui leur donnait les petits codes secrets, les armes magiques. Éphèse, c'était une ville incroyablement pourrie. Il faut comprendre que c'est une ville qui était excessivement religieuse. Et quand on voit cette situation, on dit, wow, c'est vraiment pénible. Et eux autres, ils vont tous le brûler. Et toute la ville va le voir. Quand tu fais un feu de même, tout le monde dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, ben, on brûle nos livres, on n'a plus besoin de ça. On a le Seigneur Jésus. On a les Écritures. Hein? Et dans notre argent aujourd'hui, on ne sait même pas comment estimer la valeur, tellement que c'est énorme.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup. Mm-hmm. C'est très. C'est quelque chose de spécial.
Ouais.
Well, Paul, verset 21, va se faire un plan. Paul fait tout le temps des plans, tu le connais bien. Hein? Et son plan, c'était quoi? De retourner maintenant à Macédoine et à l'Achaïe. Ça veut dire qu'il retourne en Grèce et il veut revisiter les autres églises. Son but, c'est de retourner à Jérusalem. Et ensuite, il veut faire un plan pour aller à Rome. Et nous, on appelle ça le quatrième voyage. Il va faire le quatrième voyage après qu'il est retourné à Jérusalem. Sauf qu'il ne va pas le faire comme il l'avait planifié. On fait des plans, n'est-ce pas? Tout le monde ici fait des plans?
Mm-hmm.
Est-ce que ça marche toujours?
Non.
Pas toujours. Hein? Et la tristesse fait en sorte qu'on va admettre que Dieu est en contrôle de toutes choses.
Mm-hmm.
Et l'apôtre Paul, il va faire son quatrième voyage à Rome, mais il va le faire menotter. Okay? Vous savez très bien, on a déjà lu les Actes des Apôtres, on sait qu'est-ce qui arrive. Alors, c'est fascinant de voir ceci. Now, verset 23, on n'a pas le temps de lire ça en détail, et vous pouvez le lire. Moi, je trouve ça fascinant. Parce que pour moi, là, j'aime ça un téléroman. J'aime ça les choses qui suivent, une sens logique. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, ça m'intéresse énormément. Avec toutes les démonstrations à Éphèse, pendant 2 ans d'études, pendant 3 mois dans la synagogue, un total, on nous dit, de 3 ans, l'apôtre Paul était là. La ville, il sait qui est l'apôtre Paul. Il sait qui est Jésus. Et ce qui arrive à verset 23, il va y avoir une énorme émeute dans la ville à cause de quelque chose de très spécial. Verset 24, un nommé Démétrius, orfèvre. Vous savez qu'est-ce que c'est orfèvre? Moi, je suis obligé d'aller dans le dictionnaire pour découvrir ce que ça veut dire. C'est qui travaille le métal, et spécifiquement, quelqu'un qui travaille les métaux précieux.
Ouais.
Hein? Qui travaille les métaux? Ben, ça peut être n'importe qui, un machiniste. C'est tout, tu sais qu'est-ce que c'est. Métal, on te donne un morceau, on te dit quoi faire avec. Puis tu
alors,
fais.
Il
est orfèvre. Sauf que ici, Démétrius, il travaillait le métal pour faire les idoles. Pour comprendre que toute la chicane va se poigner à cause du fait que Éphèse, c'est une énorme usine d'idoles. C'est un centre religieux. On a le fameux dieu Artemis qui est supposément, miraculeusement, il a tombé du ciel, atterri à Éphèse. Et on a littéralement bâti un temple pour Artemis. Dans le latin, c'était Diane. Et on a cette notion ici de le dieu de fertilité. Et évidemment, n'importe qui venait, les touristes, ben ils achètent des souvenirs. Hein? Quand tu vas à Paris, tu achètes un petit mini tour d'Eiffel. Il faut absolument que tu achètes ça. Right? Tu n'as pas le choix. Tu es en voyage, il faut que tu annonces ça. Hey, les gens, les fabriquent les idoles parce que on veut un statut semblable à celui qu'on a vu dans le temple d'Artemis. On veut avoir toutes ces choses-là. Ils fabriquent ça, puis ils font une fortune. Et évidemment, parce que les gens ils sont religieux, ils sont spirituels, et je prends ça entre guillemets, tu réalises que le marchand, il ne change pas le prix du métaux plus ses heures. Non. Le gars, il pense que cet idole a des pouvoirs spéciaux. Il va payer pour ses pouvoirs. Il va être prêt à payer cher. Et tout à coup, le prix, c'est payant. C'est très, très payant. Et ces gens-là sont là, ils sont installés. Il rassemble les ceux avec des mêmes métiers. Il dit aux hommes, vous savez que votre bien-être dépend de cette industrie. On parle-tu ici de l'honneur du Dieu ou on parle-tu de la pièce dans nos poches? All right? Et d'autres places dans les Écritures, on dit que quoi? On va servir le Seigneur ou on va en servir quoi? Mammon, c'est quoi? C'est l'argent. Nous autres, aujourd'hui, on peut reconnaître ça. Hein. Vous n'avez qu'à regarder les nouvelles. Un bon pourcentage des nouvelles, c'est au sujet des quoi, les prix des actions, hein, les temps, les budgets. On pense à l'argent, argent, argent. C'est inculqué depuis notre enfance. Et ça, c'est un parallèle entre l'Église Emmanuel et l'Église des Fraises. On est entouré par des gens qui sont préoccupés par leur gagne-pain, leur salaire.
L'argent, c'est un signe de pouvoir.
Pouvoir, eh oui, l'autorité. Et il dit, vous avez entendu que non seulement Éphèse, mais presque toute Asie, verset 26, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens. Et là, il est en train de parler non seulement des gens de la ville, qui étaient peut-être autrefois eux autres orfèvres, qui sont maintenant les enfants de Dieu, et ils ne sont pas intéressés à faire des idoles, ils perdent des ouvriers, mais ils perdent des clients. Parce que les gens qui venaient de partout d'Asie pour venir adorer dans ce temple, ben, ils viennent plus. Pourquoi? Parce que Paul les a enseignés que ce n'est pas un vrai Dieu, que Jésus est le seul. Alors, on voit se faire une émeute. Les gens commencent à rallier et ils ramassent tout le monde. Les Juifs essaient de les calmer. Je ne sais pas pourquoi les Juifs se mettent le nez là-dedans, mais les Juifs ont essayé de calmer, rendu au verset 33. Et devine quoi? Ça ne marche pas. Ça devient pire, OK? Mais quand il reconnut qu'il était juif, tous, un seul voix criait pendant les deux, près de deux heures, « Grand est la Diane des Éphésiens! Grand est la Diane des Éphésiens! » Pendant deux heures, il n'arrêtait pas de crier ça. Pourquoi les Juifs? Et c'est bien simple, je vous ai déjà parlé de ça. Pour un païen, un chrétien, c'est juste une forme de judaïsme. Pourquoi? Parce qu'il parle d'un seul Dieu. Parce qu'il parle de l'Ancien Testament. Il parle de Moïse, des prophètes. Et ça fait partie de toute la même poutine pour eux autres. Alors, tu vois comment est-ce qu'eux autres, ils se voient comme dans une situation. Ils refusent. Et, en fin de compte, tout ce que ça fait, c'est ça rend la situation pire. Quand on arrive à verset 35, le secrétaire. Alors, c'est qui le secrétaire? Littéralement, là, c'est le maire. C'est celui qui est en charge de la ville. Le secrétaire arrive et il apaise la foule, il leur parle, et il leur calme, littéralement. L'apôtre Paul, lui, il veut aller se présenter devant eux. Les disciples l'empêchent. Non, Paul, tu ne vas pas dans l'arène avec eux autres. Tu ne vas pas dans cette émeute. C'est pas toi qui vas régler le problème. Ils ont des cœurs endurcis à cause de leur entreprise. C'est pas toi qui vas aller le faire. Et ils font bien, parce que autrement, je pense que l'apôtre Paul leur a rendu la situation pire. Mais le secrétaire, il arrive avec tous des arguments légaux. Est-ce qu'on veut que les Romains viennent? Est-ce qu'ils veulent qu'ils nous enlèvent les libertés qu'on a? Parce que nous autres, on fait une émeute. Eux autres, ils veulent la paix. Là. Les Romains, ils veulent la paix à tout prix. Ils vont casser le nez de n'importe qui les empêche. Et ils calment le monde en disant « Wow, 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 wow ». Ça ne vaut pas la peine de perdre ce qu'on a déjà, simplement parce que vous n'êtes pas content. Et en verset 41, il les congédia. Et pour terminer, on arrive à verset 1 de chapitre 20 qui nous dit quoi? Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Et Paul commence à faire son plan comme il l'avait dit. Il va quitter Éphèse, il va monter le long de la côte, il va faire le tour, il va faire ce que lui avait prévu de faire. Alors, je vous amène ça simplement à vous dire que Paul, il n'est pas vraiment en charge. Oui, c'est lui qui planifie, c'est lui qui agit. Mais est-ce qu'on voit vraiment la réalité des Éphèse? Commencé dans l'an 50 avec le témoignage de quelques personnes et qu'ils ont venu. L'apôtre Paul qui arrive par après, qui forme, qui monte à l'école. Est-ce que vous voyez que c'est le Saint-Esprit qui travaille à travers les années pour former les gens, pour les placer à la bonne place, les circonstances? Souvent, on se pose la question, comment ça se fait que je suis rendu ici? Je vais dire tout de suite la première chose, parce que Dieu l'a voulu. Dieu est en train d'orchestrer les événements, nous amener dans des situations qui ne sont pas faciles, des situations pénibles, souvent des épreuves, souvent des maladies. Et on se pose la question, Seigneur, pourquoi tu m'exposes à ça? Et la réalité, c'est que le Saint-Esprit nous pousse par les événements, par les autres autour de nous, pour que nous, on puisse faire ce que Dieu il désire. Et malgré le succès que Dieu donne aux croyants, il y a quand même l'opposition à Éphèse. Il y a quand même des gens qui leur causent des troubles. Et c'est incroyable. Et la semaine prochaine, on va aller plus profondément dans la vie de l'Église. Exactement. Quelle sorte d'épreuves qu'ils vont avoir. Mais aujourd'hui, c'est notre tour. Nous, on est tentés par tous les moyens que le diable peut nous envoyer. Ça peut être des passions, ça peut être le péché. On est tentés sans arrêt. Et comme enfant de Dieu, on essaie de quoi? De résister ces tentations. Même quand on pense qu'on fait le bien, des fois on est tenté. Moi, j'ai vu ça à maintes reprises dans les églises où on était. Les gens ont plein de bonnes idées. Mais Dieu ne veut pas qu'on ait juste des idées et qu'on fait à notre tête. Dieu a un plan. Et le plan est très simple. C'est en étudiant la parole, en se mettant ensemble, les frères et sœurs, pour connaître la vérité. Ensuite, de prier dessus et prier pour l'un et l'autre. Prier pour les perdus qui sont autour de nous. Et ensuite, d'aller témoigner à eux. Le Seigneur nous a donné un outil, une méthode, et nous, on peut arriver pour penser qu'on peut l'améliorer, qu'on peut l'aider la situation. Non, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Et on prie que le Seigneur sert de nous pour le faire. Et quelle bénédiction! Moi, j'ai trouvé ça fantastique de regarder le chapitre 19 dans cette lumière. Éphèse, une église en formation, et comment est-ce que ça commence à s'évoluer. C'est vraiment notre désir pour nous ici, à Emmanuel, de reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Prions. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as donné l'apôtre Paul. Et on a cet exemple qui nous inspire et qui nous encourage à mettre notre confiance en toi. Toi qui as la puissance, toi qui es capable de tout faire. Et toi, tu nous as placés ici ensemble, Emmanuel. Sers-toi de nous, Seigneur, pour être des bons témoins envers toi. D'être fidèle. Aide-nous, Seigneur, à bien gérer les ressources que tu nous as données. Et Seigneur, aide-nous d'être préoccupés par ta gloire par-dessus toutes choses. Nous demandons ces choses ce matin, Seigneur, par le nom de Jésus. Amen. Amen.